qui touche à la mutualisation de la dématérialisation des marchés publics par les collectivités territoriales. Quelle structure juridique, quelles modalités, quels enjeux? Vous avez la parole.
Très bien, merci. Donc comme vient de le dire Maître Vidal, les directives en cours de modification veulent aller dans le sens de la dématérialisation des marchés publics, une dématérialisation qui soit de plus en plus complète. Mais si on regarde un petit peu en arrière, on voit que dès les années 2000, la dématérialisation des marchés publics était considérée comme un véritable enjeu du passage de l'administration à l'administration électronique. Alors les avantages en faveur de la démat des marchés publics ne manquaient pas, ni les bénéfices escomptés. Après, effectivement, on peut se poser la question de savoir si effectivement les bénéfices ont été ce qu'on nous présentait. Donc en termes de bénéfices, l'idée c'était d'accroître la concurrence, permettre aux entreprises d'accéder à la commande publique, notamment favoriser l'accès des PME à la commande publique. Simplifier les procédures de marché public et professionnaliser l'achat public que pratiquaient les acheteurs. Ainsi, à la lumière de ces enjeux, la question pour nous, collectivités territoriales et acheteurs publics, était de savoir quel échelon territorial pertinent pour mettre en œuvre ce type de projet au travers de plateformes de dématérialisation. Alors en Bretagne, rapidement, l'échelon territorial pertinent s'est avéré être l'échelon régional pour un certain nombre de raisons. D'une part, la structure que je dirige préexistait. Le syndicat mixte existait depuis 1999 et avait pour mission l'aménagement numérique du territoire. Ensuite, évidemment, la dimension économique d'un tel projet. Et puis la nécessité de faire des économies d'échelle au travers le levier du groupement de commandes, de la centrale d'achat, que représente une structure de coopération territoriale comme le syndicat mixte. Et puis évidemment une question de bon sens. Il paraissait assez normal à l'époque de ne pas multiplier les plateformes, de pas qu'il n'y ait pas autant de salles de marché public que d'acheteurs publics, de pouvoir adjudicateurs. Et ça, à l'époque, effectivement, on a pu voir fleurir un certain nombre de solutions. Les choses se sont un peu tassées par la suite. Donc c'est ce qui nous a amené, nous, pour le bien de nos entreprises, à proposer une salle régionale de dématérialisation des marchés publics. Alors, quelques chiffres aujourd'hui sur la salle régionale Imégalis. Il y a 25 000 entreprises inscrites, ce qui est peu, hein, puisqu'on a plus de 140 000 entreprises sur le territoire. Près de 1000 pouvoirs adjudicateurs accèdent à la salle des marchés. Ces pouvoirs adjudicateurs ont publié plus de 30 000 consultations et on a eu plus de 7 000 réponses électroniques. Donc ça peut vous paraître pas trop mal, mais en fait c'est pas excellent. Hein. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que effectivement, comme l'a dit Maître Vidal, le code des marchés publics n'imposait pas la dématérialisation dans un premier temps et il l'impose d'ailleurs toujours pas. Ce qui fait que les acheteurs publics se sont contentés de respecter ce qu'on leur demandait de respecter. Alors, la réussite, évidemment, de la dématérialisation des marchés publics ne peut pas se résumer à la mise en œuvre d'un simple outil. Ça serait un petit peu trop simple. Ça suppose de pouvoir recréer les conditions favorables à son développement et puis surtout de trouver les moyens de constituer un écosystème favorable à la mise en œuvre de ce type de procédure. La coopération territoriale entre acteurs publics, mais également entre acteurs publics et privés, est essentielle et primordiale. C'est pas une chose aisée, ça se décrète pas. C'est pas évident pour des structures qui ont l'habitude de travailler avec des objectifs, de décider à un moment donné de pouvoir s'associer, de monter des partenariats pour pouvoir tout simplement conduire le changement. Parce que c'est un élément essentiel de la réussite de ce type de projet. Alors c'est pour ça que nous, on a mis en place un dispositif régional de sensibilisation et de formation, qu'on a essayé de travailler avec un certain nombre d'acteurs locaux compétents sur le territoire, notamment les centres de gestion, le CNFPT, les associations d'élus, mais également les organisations professionnelles qui ont vocation à former les entreprises sur le territoire. Et puis également les éditeurs qu'il ne faut pas oublier. Vous avez parlé du référentiel général d'interopérabilité. L'interopérabilité est un enjeu essentiel pour ce type de plateforme. Rendre interopérables nos systèmes d'information est évidemment essentiel. Alors, au-delà, évidemment, de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut écrire, il faut être en capacité de démontrer les bénéfices induits. Il ne suffit pas d'avancer des avantages, parce que les contraintes organisationnelles sont telles que les collectivités, et en particulier les élus, sont obligés d'appréhender correctement quels bénéfices on met en avant. C'est pour ça que nous, on s'oriente vers l'évaluation de notre politique publique avec la mise en œuvre d'un observatoire régional de l'administration électronique. Pour ce faire, on travaille à définir des indicateurs qui nous permettent de suivre l'activité à la fois des acheteurs publics et des opérateurs économiques et surtout d'appréhender au mieux le taux de dématérialisation des marchés publics. Souvent, on vous annonce un taux de dématérialisation alors qu'il est entre 2 et 5 % au niveau national. Et puis après, chaque profil d'acheteur met en avant son taux de démat. Mais en fait, ce taux de démat est calculé en prenant en compte le nombre de consultations passées et puis le nombre de réponses électroniquement. On ne prend pas en compte le nombre de marchés passés dans l'absolu, qu'ils soient papier ou électronique. Et pour ça, en fait, il faut avoir des indicateurs et il faut aussi qu'il y ait des véritables politiques d'achat qui soient mises en œuvre au sein des collectivités. Et puis, à côté de ça, on est en train de définir un mode de calcul qui vise à analyser les économies générées à la fois par la dématérialisation des marchés publics et la mutualisation. Alors aujourd'hui, on a calculé tout ça. On a un taux de dématérialisation des marchés publics en Bretagne qui est de 26%, qui est plutôt très bon par rapport à la moyenne nationale, mais il me semble pas assez bon par rapport à tout le travail qu'on mène depuis quand même 2005. Les économies générées par la dématérialisation des marchés publics s'élèvent à 360 000 euros par an sur la base du taux de dématérialisation actuel. Et si on se situe dans la perspective du 100% des maths, on atteindrait des économies d'1,3 million d'euros par an. Donc on voit bien que plus on se situe dans la perspective du 100% des maths, plus les économies générées sont importantes, ce qui semble assez logique. S'agissant de la mutualisation, donc c'est-à-dire les économies d'échelle qu'on fait par la passation mutualisée de marché public, les économies s'élèvent à 1,1 million d'euros par an sur un périmètre donné, à savoir les marchés publics et la dématérialisation du contrôle de légalité, puisqu'Imégalis n'est pas seulement un profil d'acheteur, mais également une plateforme régionale d'administration électronique. Alors tout ça, évidemment, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec l'appui d'un consultant et dans une logique de concertation avec les collectivités territoriales. On a défini un panel d'une dizaine de collectivités qui sont représentatives, évidemment, des collectivités qui composent le territoire breton. Et donc on avance petit à petit. L'objectif est de définir des indicateurs pour l'ensemble des services qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir construire notre observatoire régional. Alors, quant à la structure juridique porteuse adéquate pour porter ce type de projet, s'il est clair qu'il faut une structure porteuse, il est difficile en fait d'en faire le portrait idéal et ça serait pas forcément très intéressant pour vous de faire la comparaison entre ce que c'est un syndicat mixte, ce que c'est un groupement d'intérêt public, ce que c'est une société publique locale. En fait, la structure porteuse doit être le reflet du projet, le reflet des valeurs et des principes que portent les élus, notamment pour ce qui nous concerne la solidarité territoriale, la mutualisation, le partage des bonnes pratiques. Et cette structure, finalement, doit être assez souple pour pouvoir prendre des décisions qui sont rapides compte tenu de l'évolution des pratiques. Et elle doit aussi permettre de constituer une équipe pluridisciplinaire, parce qu'il faut effectivement avoir des compétences en termes de gestion des politiques publiques, mais des compétences juridiques, des compétences techniques, et puis faire face, encore une fois, à l'évolution rapide de la réglementation. Un élément essentiel pour la structure, c'est évidemment la gouvernance. Faut pas oublier qu'il s'agit de politiques publiques qui sont portées par les élus. Et s'agissant de mener ce type de politique sur un territoire aussi vaste que la Bretagne, il n'est pas toujours évident de réunir au sein d'une structure comme le syndicat mixte, puisque c'est un syndicat mixte que nous avons retenu, de réunir l'ensemble des élus qui composent nos membres et d'assurer une représentativité des territoires, mais également l'ensemble des tendances politiques au sein de cette structure. Sans oublier la complexité du sujet et la difficulté pour nos élus et nos décideurs territoriaux d'appréhender les enjeux liés à la dématérialisation des échanges électroniques. Donc comme je disais, on a fait le choix d'un syndicat mixte établissement public administratif. D'autres territoires ont choisi d'autres types de structures, comme des groupements d'intérêt public ou des sociétés publiques locales, et ils réussissent également parfaitement. Alors pour finir, je voudrais insister sur un sujet que vous avez évoqué, qui est la nécessité en fait d'appréhender la dématérialisation des marchés publics comme un maillon de la chaîne complète de dématérialisation des échanges administratifs ou interadministratifs, autrement appelé la dématérialisation de bout en bout des échanges. Il me semble qu'une concertation entre la DAJ, la DGCL, la DGFiP est nécessaire, car comme vous l'avez dit aujourd'hui, il n'est toujours pas possible d'adresser un marché public électronique au contrôle de légalité, ce qui veut dire que si vous avez généré toute une procédure par voie électronique, vous allez être obligé de rematérialiser. Qui dit rematérialiser dit rupture de la chaîne de confiance, sauf à demander à l'entreprise de signer le marché public que vous lui avez demandé de signer électroniquement avec le bon certificat, etc., et que vous auriez refusé si elle ne l'avait pas fait. Donc d'un point de vue juridique, on peut se poser un certain nombre de questions. Au-delà de ça, aujourd'hui, les délibérations, les actes juridiques qui sont transmis en préfecture ne sont pas signés par l'élu, c'est-à-dire, de mon point de vue, pas de valeur juridique, ce qui peut poser un certain nombre de questions également. Et s'agissant de la suite de la chaîne de confiance, se met en place la dématérialisation des pièces justificatives aux comptables, ce qu'on appelle le protocole d'échange standard, le PES. Donc aujourd'hui, on mène un certain nombre d'expérimentations. On peut dire que les choses se passent pas mal, mais on sait d'ores et déjà que le PES n'est pas conforme au référentiel général de sécurité, et que le référentiel général de sécurité s'impose aux collectivités et à tous les échanges électroniques que l'on peut avoir. Alors évidemment, tout ça est pénalisant pour les collectivités, notamment pour celles qui ont une petite longueur d'avance sur les autres. Donc il me semble qu'une concertation entre les services de l'État en présence des collectivités territoriales serait de nature à faire progresser la dématérialisation des marchés publics, mais de manière générale, l'administration électronique telle qu'on nous la présente depuis maintenant plus de 10 ans. Merci.